Radio France Internationale, il est 3h à Paris.
Mathis Limano.
Une heure en temps universel, l'heure d'un nouveau journal. À la une, l'eau utilisée comme arme de guerre à Gaza. On savait la famine installée dans le territoire palestinien. Les Nations Unies s'inquiètent dorénavant du manque criant d'eau pour la population. Aux États-Unis, la campagne se poursuit malgré la tentative d'assassinat de Donald Trump. Les électeurs de Pennsylvanie, l'un des États clés, peuvent voter par correspondance depuis ce lundi. Et puis le typhon Bebinca frappe actuellement la Chine, mais avant lui, Yaji, en Asie du Sud-Est, plusieurs millions de personnes auraient été affectées. Bienvenue dans ce journal. À Gaza, les armes utilisées ne sont pas que des armes à feu. On connaît la faim comme arme de guerre. La famine s'est installée dans le territoire palestinien. Mais avec l'aide humanitaire qui arrive au compte-gouttes, l'eau devient aussi une arme. À Genève, Jérémy Lanche, un des experts de l'ONU, accuse Israël d'assoiffer la population.
Dans les pays riches, nous consommons en moyenne une centaine de litres d'eau par jour et par personne. Pour notre nourriture, notre maison, nos sanitaires, en cas de crise humanitaire, le minimum requis, c'est 15 litres par personne. À Gaza aujourd'hui, c'est 3 fois moins. Et encore, on parle d'eau qui n'est pas toujours potable. Pedro Aroro Agudo est le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'accès à l'eau.
En droit international, le blocage systématique de l'aide humanitaire et de la nourriture est considéré comme un crime contre l'humanité dans la catégorie extermination d'une population. Et l'eau, c'est la nourriture principale dont nous avons besoin pour survivre. Si en plus de cela, l'eau à disposition n'est pas potable, elle devient le plus terrible vecteur de maladies et de morts qui existent. Donc dans ce cas présent, l'eau est clairement utilisée comme une arme de guerre.
La quasi-totalité des infrastructures liées à l'eau sont détruites, endommagées ou tournent au ralenti à Gaza. Israël dément les avoir ciblées et accuse en retour le Hamas. Mais selon les experts, la stratégie à l'œuvre ne date pas de la guerre. Pour preuve, la situation des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Ils ont aujourd'hui 18 fois moins d'eau à disposition que les colons israéliens. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Le Hamas, lui, s'est dit prêt à une longue guerre d'usure et assure que la résistance au Liban, à Gaza, en Irak et au Yémen vaincra Israël. Dans la bande de Gaza, la défense civile a fait état ce lundi d'au moins 18 morts et plusieurs blessés dans des frappes aériennes. Selon le ministère de la Santé du Hamas, le dernier bilan est de 41 226 morts. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie américaine va se rendre cette semaine en Égypte. Anthony Blinken doit aussi présider une réunion du dialogue stratégique entre Washington et le Caire, l'Égypte, alliée clé dans la médiation aux côtés du Qatar et des États-Unis. Les États-Unis où nous amène l'actualité avec cette tentative d'assassinat sur Donald Trump. Un homme armé a été maîtrisé alors qu'il s'était approché du golfe de la propriété du candidat républicain en Floride. C'est la deuxième tentative d'assassinat en 2 mois visant Donald Trump. À chaque fois, la protection de l'ancien président était assurée par le Secret Service. Le rôle de cette agence et surtout son efficacité interroge et font écho surtout aux responsabilités des services de sécurité dans la tuerie de l'école d'Uvalde, il y a 2 ans, au Texas. La pire fusillade qu'ait jamais connue une école dans l'État. 19 enfants et 2 enseignants avaient été tués. 2 policiers, les premiers arrivés sur les lieux, comparaissaient ce lundi devant la justice du Texas pour avoir tardé à appréhender le tireur. Les policiers fédéraux présents aussi sur place le jour de la fusillade reconnaissent, eux, qu'ils ne sont pas préparés à ce genre d'événement. Abla Junaidi.
Avec son subalterne Adrian Gonzalez, Pete Arredondo est le premier policier arrivé sur place le jour du drame. La justice leur reproche tous deux de ne pas avoir attaqué, distrait et retardé le tireur afin de l'empêcher d'entrer dans d'autres salles de classe et faire d'autres victimes. Des accusations trop vagues selon leurs avocats et qui surtout font porter au seul policier la responsabilité de la tragédie. 7 longues minutes se sont écoulées avant que le tireur ne soit tué par des adjoints du shérif et des agents de protection des frontières. Même si ce genre d'intervention ne font pas partie de ses missions, l'agence de protection des frontières fait aujourd'hui son mea culpa. Dans un rapport, elle estime que ses agents ne sont pas préparés de manière adéquate à faire face à un tireur actif, ni du point de vue des équipements pour forcer les portes, ni pour coordonner son action avec la police locale. L'absence de chaîne de commandement claire le jour de la catastrophe a conduit à une mauvaise prise en charge des blessés. Par exemple, l'agence appelle à se doter d'une doctrine et d'une formation complète de ses agents pour parer à de futurs drames.
précision d'Abla Junaidi. La campagne américaine qui suit quand même son cours ce lundi marquait le début du vote anticipé en Pennsylvanie. Les électeurs qui se savent en incapacité de se rendre aux urnes le 5 novembre prochain peuvent commencer à voter par correspondance, c'est-à-dire par courrier, pour Kamala Harris ou Donald Trump. Un pas de plus vers l'élection présidentielle et une étape importante pour les deux candidats. La Pennsylvanie est un swing state, un état clé indispensable pour gagner la course, et Kamala Harris compte bien convaincre les électeurs de voter démocrate. Agnès Trouillet, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de la Pennsylvanie.
Kamala Harris essaye d'aller courtiser cet électorat ouvrier, industriel, qui a été traditionnellement démocrate, mais qui en 2016 a voté pour Donald Trump avec une faible marge, mais quand même. Biden a réussi à récupérer cet électorat en 2020, mais c'est un électorat qui compte, puisqu'il va falloir à la fois promettre des emplois et donc ne pas interdire la fracturation hydraulique, donc l'extraction du gaz de schiste, et puis à la fois séduire les électeurs qui attendent donc une énergie plus verte, hein, les électeurs qui se trouvent dans les zones plus progressistes de Pennsylvanie, que sont Pittsburgh et Pennsylvania, les deux grandes métropoles de l'ouest et de l'est de l'État, qui entre les deux une très grande étendue conservatrice finalement.
Propos recueillis par Marine Le Bègue. Thierry Breton ne fera pas partie de la prochaine Commission européenne. Le Français claque la porte de l'exécutif de l'UE. Celui qui était chargé du gros portefeuille du marché intérieur accuse Ursula von der Leyen de l'avoir poussé vers la sortie. Joint par Julien Chavannes, Éric Maurice est chercheur à l'European Policy Center à Bruxelles. Pour lui, la présidente de la Commission a voulu faire un acte d'autorité alors que la France est moins forte sur la scène européenne.
Non seulement elle frappe un grand coup contre un État important, la France, avec un commissaire important, Thierry Breton, qui était un commissaire sortant avec un portefeuille majeur, avec une influence majeure. Donc c'était évidemment un camouflet pour la France, et pour Emmanuel Macron, on peut imaginer que Ursula von der Leyen a estimé qu'Emmanuel Macron était politiquement affaibli sur la scène européenne et qu'elle était en mesure de lui imposer un changement de commissaire, ce qui est effectivement jamais vu. D'abord, elle doit son élection à la présidence de la Commission européenne, sa première élection en 2019, en grande partie à Emmanuel Macron. Et là, finalement, elle s'affranchit d'un de ses premiers soutiens et elle montre qu'elle veut rester une présidente forte dans ce bras de fer avec les États membres en faisant un exemple, et un exemple retentissant.
La politique européenne, c'est aussi cet hommage inattendu en matière de politique migratoire, celui du Premier ministre britannique, un travailliste, rendu à la présidente du Conseil italien, issu de l'extrême droite. En visite à Rome, Keir Starmer a salué les progrès remarquables de Giorgia Meloni dans la lutte contre les filières d'immigration clandestine. Le Premier ministre s'est même dit intéressé par la méthode de son homologue italienne, qui a signé un accord controversé avec l'Albanie pour que ce pays accueille les migrants. À Londres, cet éloge de sa politique migratoire a été critiqué jusque dans le camp du Premier ministre. Alors que le typhon Bebinka frappe la Chine et la ville de Shanghai, le typhon Yaji a semé la destruction en Asie du Sud-Est. La Chine, déjà, le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et la Birmanie ont subi de lourds dégâts humains et matériels après les glissements de terrain et les inondations provoquées par le typhon. On estime que plusieurs millions de personnes ont été affectées. Simon Rosé.
20 millions de personnes ont subi les conséquences du passage de Yaji. Les pluies torrentielles qui l'ont accompagné ont en effet provoqué des inondations et des glissements de terrain sur une large partie de l'Asie du Sud-Est, des Philippines à la Birmanie. C'est cependant au Vietnam que le typhon a causé le plus de destruction. Près d'une semaine après son passage, de nombreux villages sont encore sous l'eau. Des centaines de milliers de personnes ont été évacuées. Plus de 200 sont mortes. Les maisons, près de 200 000. Les infrastructures du pays, ses champs, ont été durement touchés également. Le gouvernement vietnamien estime que le passage de Yaji a engendré plus d'1,5 milliard d'euros de pertes économiques. Plus à l'ouest, la Birmanie aussi a été frappée de plein fouet. La litanie des chiffres donne une idée de la catastrophe, là encore. Plus d'une centaine de morts, au moins autant de disparus, 320 000 déplacés, 5 barrages détruits. Le bilan est tel que la junte au pouvoir a fait appel à l'aide internationale, fait rare pour un régime militaire qui avait refusé l'aide humanitaire auparavant.
Simon Rosé du service environnement de RFI. Presque 3h10. Ici à Paris. Tout de suite, c'est Priorité Santé. Retour de l'information dans 50 minutes.